Henri III était le fils préféré de sa mère, donc le chouchou. Mais du coup, ça pose problème parce que sa mère, Catherine de Médicis, était habituée à gouverner à la place de ses fils depuis la mort d'Henri II. Donc du coup, elle avait toujours ces vieux réflexes de c'était quasiment elle la reine. Donc ils n'étaient pas toujours d'accord. Au début, ils se laissent conseiller, mais elle est vieillissante aussi. Elle est peut-être moins pertinente dans ses choix et ses décisions. Et puis à côté de ça, il y a son frère qui n'arrête pas de trahir et de lui mettre des bâtons dans les roues. Enfin, c'est une catastrophe. Alors lui, le frère, voilà, François d'Alençon, alors lui, c'est vraiment le personnage qu'on ne peut pas aimer, en fait, dans cette histoire-là, quoi. Il n'a rien d'attachant, vraiment. Et puis il y a la sœur Margot qui, elle, pour le coup, a un côté plus attachant, mais qui est une sacrée peste aussi. Et en fait, le principe, c'est au fil du récit, en fait, c'est vraiment les liens familiaux qui sont castrateurs pour Henri III. Et plus il se débarrasse ou plus il est débarrassé des membres de sa famille au fil du récit, et plus il s'émancipe en tant que roi, et il peut, à la fin, après la mort de sa mère, il peut enfin prendre la décision de donner la couronne, la succession à Henri de Navarre, qui est protestant, chose inadmissible à l'époque. Mais tant qu'il ne s'est pas dégagé des liens familiaux qui sont emprisonnants, il est impuissant à gouverner, en fait. En plus, c'est une drôle de période, le XVIe siècle, parce qu'il y a à la fois un aspect très raffiné dans les costumes, dans les comportements, dans le langage même. Et en même temps, il y a une sauvagerie aussi abominable, quoi. Donc c'est une espèce de dilemme permanent. Et c'est vrai que Henri III est complètement représentatif de cette ambiguïté de l'époque. C'est un personnage raffiné dans une époque qui ne l'est pas tant que ça. Donc du coup, ça lui crée une réputation de sodomite, homosexuel, etc., voire même d'hermaphrodite, on a tout dit sur son compte. Mais en gros, je comparerais ça juste à, aujourd'hui, on appellerait ça du bashing. On parlait de Hollande bashing. C'est exactement ce qui s'est passé à l'époque. Le peuple ne l'aimait pas, pour plein de raisons, qui n'étaient pas forcément très bonnes d'ailleurs en général. Et donc du coup, le peuple n'a pas arrêté de faire courir des rumeurs sur son compte. On placardait des pasquilles, des pamphlets sur les murs de Paris qui insultaient le roi. Et c'est un truc incroyable. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça existe toujours sous une autre forme et ça passe par d'autres canaux, mais c'est la même chose. Encore une fois, je ne fais pas un travail d'historien, ce n'est pas mon boulot, je fais de la fiction à partir de faits historiques. Et ce qui m'intéresse, c'est les résonances que ce récit-là a avec notre époque actuelle. Je parlais du bashing, par exemple, sur les hommes politiques, mais aussi cette situation d'un royaume ingouvernable, en réalité, qui est très proche de ce qu'on peut ressentir aujourd'hui, où les politiques ont l'impression qu'ils ont perdu leur pouvoir réel, mais aussi le pouvoir symbolique. Il n'y a plus de respect, de moins en moins, pour les politiques. Ce n'est plus eux qui gouvernent, on a l'impression qu'ils sont assujettis à d'autres puissances économiques. À l'époque d'Henri III, c'est un peu la même chose. Il est pris entre deux feux, entre des factions rivales, entre les protestants, évidemment, qui réclament la liberté de culte, et ce qu'on pourrait appeler les ultra-catholiques, même si les historiens n'aiment pas beaucoup ce terme-là, le duc de Guise, les Guisards, qui, eux, trouvent le roi trop mou avec les protestants. Donc, du coup, il est obligé de temporiser et de ménager à la fois la chèvre et le chou. Donc, du coup, il fait la guerre, mais il fait la guerre sans... Alors, les caisses de l'État sont vides, en plus, donc c'est pas évident de faire la guerre, voilà, trop longtemps. Et puis, il fait la guerre sans grande conviction. Donc, du coup, ça aboutit à chaque fois à un traité de paix, parce que bon, alors, la guerre peut pas continuer, donc on signe un traité de paix, mais qui ne convient à personne en réalité. Donc ça, on sait que la guerre va repartir quelques temps plus tard.